Voilà, nous allons maintenant entrer dans notre sujet de loin le plus intéressant. Deutéronome chapitre 1er sera notre première lecture. Deutéronome chapitre 1er, dont je lirai les versets 28 à 31. Deutéronome chapitre 1er, versets 28 à 31 comme première lecture. Il s'agit donc d'un retour en arrière sur une partie de l'histoire du peuple d'Israël. Lorsqu'il était question de partir à la conquête de la terre promise, où monterions-nous, verset 28, nos frères nous ont fait perdre courage en disant « C'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas, n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux, en Égypte, puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. » Dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, un des rares passages des Écritures à évoquer de manière très directe l'éducation des enfants. Éphésiens 6, chapitre 1 à 4. Dernier chapitre d'Éphésiens 6, 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, père ou parents, nous y reviendrons, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et puis un dernier texte dans la courte épître de Paul à Tite. Donc après les deux épîtres à Timothée vient la petite épître à Tite. Et au chapitre 2, nous avons une exhortation faite aux femmes âgées et indirectement aux jeunes femmes. Tite 2, versets 3 à 5. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. C'est intéressant. Ça veut dire que la vieillesse n'est pas une invitation à se négliger. Et j'ai souvent été profondément édifié par des personnes âgées qui avait l'art de rester dignes dans leur présentation et dans leur présentation extérieure, dans leur grand âge. C'est beau, la dignité extérieure lorsqu'elle correspond au cœur, nous dit ce texte, d'une personne âgée qui continue à prendre soin d'elle, à présenter extérieurement la beauté de la sainteté. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, de n'être ni médisantes, En grec, c'est un mot qui fait partie de la famille du diable. Ni adonné aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. On va traduire plus précisément, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à être amoureuses de leur mari, d'une part, et amoureuses de leurs enfants, d'autre part. Ici, nous avons le terme grec qui correspond au mot que l'on trouve dans philatélie, théophile, philéo, c'est-à-dire avoir de l'affection, montrée de manière claire, concrète, qu'on aime l'autre. C'est un aspect, si vous voulez, de l'agapé, de cet amour d'en haut, de cet amour désintéressé. Et ici, il est répété deux fois, n'est-ce pas? Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes, premièrement, à être amoureuses, affectueuses envers leur mari, puis c'est répété après pour les enfants, et à être affectueuses, amoureuses de leurs enfants, à être retenue, chaste, occupée aux soins domestiques. C'est un seul mot dans le texte original, littéralement femme d'intérieur, femme de la maison, bonne, soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Nous arrivons dans le cadre de cette longue série sur l'éducation des enfants, nous arrivons ce matin à notre quatrième étape, puisqu'il faut tenir compte du week-end des 10 et 11 février dernier, au cours duquel nous avons considéré l'importance du sujet dans une introduction générale, et surtout, pour toute la journée du dimanche, nous avons considéré la priorité des priorités dans ce domaine essentiel de l'éducation des enfants, à savoir éduquer par l'exemple. L'importance de l'exemple. Et nous nous sommes solidement appuyés sur des exemples pris dans les biographies de certains personnages bibliques pour souligner cette importance de l'éducation par l'exemple. Tout cela a été enregistré. Nous vous le rappelons, il y a donc trois cassettes qui traitent de cette question et vous pouvez aller vers notre ami Walter Streif si vous le désirez. Hier soir, nous avons donc annoncé la couleur de la deuxième priorité fondamentale. Une fois de plus, je le redis, il nous est interdit de brûler des feux rouges. J'aimerais bien, je brûle d'envie d'entrer dans toutes ces considérations d'ordre très pratique. Mais je me l'interdis. Je me l'interdis parce que si nous voulons faire preuve de sagesse d'en haut et de bon sens, nous n'allons pas construire une maison sur un tel thème sans creuser et poser des fondations. À quoi servirait-il que nous évoquions comment les parents doivent se comporter si l'enfant est irrespectueux, etc., si au préalable, nous ne nous étions pas d'abord penchés sur l'exemple? Quel crédit pouvons-nous avoir, quelle autorité réelle pouvons-nous avoir dans notre vie familiale si nous nous conduisons n'importe comment? Médecin, guéris-toi toi-même. Voilà ce que pourraient nous dire tout simplement nos chers enfants. Et de la même manière, comment pourrions-nous nous pencher sur toutes ces questions d'ordre très pratique que nous allons aborder. Si les parents sont absents, à quoi ça sert? Pourquoi nous intéresser à ces questions pratiques si nous ne sommes pas là pour éduquer nos enfants? Si nous considérons que notre présence est totalement secondaire, qu'ils peuvent très bien, nos chers enfants, se passer de nous, avoir la dernière partie de notre temps, comme si nous avions un message pour eux qui consisterait à leur dire « Tu es tellement important dans notre vie, eh bien nous te donnons très peu de temps. » Quel paradoxe. Voilà pourquoi le thème de notre réflexion est celui-ci, et c'est une manière très lapidaire, très forte, très imagée de le dire, très percutante peut-être aussi, la présence avant les sous. La présence avant les sous. Quand mon frère Patrick, tout à l'heure, au moment où nous nous sommes salués, m'a dit « Est-ce que tu aurais un cantique, peut-être, par lequel nous pourrions commencer ce culte ?» Je lui ai dit tout de suite « J'ai soif de ta présence. » Tout simplement parce que c'est un cantique qui me poursuit depuis hier soir. J'étais tellement heureux du choix des deux cantiques d'hier, je ne l'ai pas dit hier soir. Mais parce qu'ils allaient dans le sens de ce qui est très fort dans mon cœur, mais qui doit être fort dans nos cœurs. Nous avons chanté, par exemple, hier soir, « Non, jamais tout seul ». Les deux cantiques tournaient autour de l'importance de la sollicitude, des tendres soins, de la présence de Dieu. Et nous sommes allés dans le même sens ce matin. Pourquoi ? Est-ce que ça vous intéresserait, vous qui, comme moi, connaissez déjà le Dieu manifesté en Jésus-Christ ? Est-ce que ça vous intéresserait, ce Dieu, s'il n'était pas présent ? Quand nous considérons le Dieu de l'islam et les divinités des grandes religions mondiales, ces divinités lointaines, ces divinités aussi absentes de la vie quotidienne des personnes que l'été, les Baals et les Astartés, n'est-ce pas, lorsqu'Élie s'adressait à leur prophète dans un roi 18 en disant « Mais votre Baal, il est peut-être en train de faire dodo, il fait la sieste, il est trop occupé par ailleurs, vous devriez crier un peu plus fort. » Parce que, franchement, votre divinité, elle n'a pas l'air de beaucoup s'intéresser à vous. Ce qui est une des raisons de l'adhésion de mon cœur, c'est-à-dire de tout mon être, à la personne de Dieu telle qu'il s'est révélé à moi par Jésus-Christ, et dans la croix en particulier, c'est que j'ai un Dieu Père qui s'occupe continuellement de moi. J'ai un Dieu Père qui prend ses responsabilités. J'ai un Dieu Père qui ne me dit pas « Oh, tu sais, Maurice, je suis occupé ailleurs. Moi, j'ai envie de prendre ma petite journée de congé, alors fous-moi la paix. » Nous avons un Dieu qui nous a dit en Jésus-Christ, Matthieu 28, 20, la conclusion de Matthieu, la conclusion de Marc, dans Marc 16, « Je suis avec vous tous les jours. » Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ou encore, voici le Seigneur Jésus travaillait chaque jour, tous les jours avec eux. J'aime Dieu parce qu'il est, pardon de le dire ainsi, à la fois un Père, et d'abord un Père, puisqu'il est appelé Père dans les Écritures. Mais il est aussi une mère. Je dirais que sa paternité à lui englobe une part de féminité. Parce que c'est un Dieu à la fois éminemment protecteur, puissant, tout puissant. Un Dieu qui donne la sécurité. Oh, je pense ici, à l'instant, au psaume 18, où David, quand il a été délivré de tous ses ennemis et de la main de Saül en particulier, disait « Je t'aime !» Littéralement, dit le texte hébreu, « Je te chéris avec tendresse !» C'est beau, hein ?« Ô Éternel, ma force !»« Éternel, mon rocher !» Ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Nous connaissons un Dieu présent dans sa toute-puissance. Un Dieu qui nous donne la sécurité. Pardon de le dire comme ça, nous connaissons un Dieu viril. Et en même temps, nous connaissons un Dieu qui est d'une tendresse affectueuse absolument extraordinaire. Et je comprends pourquoi, nous l'avons lu hier soir, l'apôtre Paul, habité par l'esprit de ce Dieu-là, habité par ce Dieu-là, pouvait dire, n'est-ce pas, aux Thessaloniciens dans 1 Thessaloniciens 2, premièrement, verset 7, « Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. » Ce n'est pas une nourrice agréée ici, n'est-ce pas? C'est une nourrice en tant que mère de ses enfants. Souligne le texte, il y a une communion entre nourrice et enfant ici. Elle prend un tendre soin de ses enfants. De même, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Ça, c'est le côté féminin de la personnalité éminemment virile, par ailleurs, de l'apôtre Paul, mais qui avait ces accents de tendresse dans la relation avec ceux sur lesquels Dieu lui avait donné autorité dans le domaine spirituel. Et puis aussitôt après, n'est-ce pas, verset 11, « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous encourageant, vous réconfortant, et vous conjurant, vous adjurant, vous demandant de manière solennelle de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » C'est beau, n'est-ce pas, de voir dans la personnalité et de le ministère de l'apôtre Paul réunis ces deux pôles, le pôle féminin et le pôle masculin. Nous avons été pour vous une mère et nous avons été pour vous comme un père qui exhorte, qui encourage, qui adjure, qui exerce une autorité pour vraiment vous amener à vous conduire d'une manière qui glorifie le Seigneur. Ça, c'était le fruit de l'esprit dans la vie de l'apôtre Paul. C'est parce qu'il était animé de l'esprit de Dieu dans cette double qualité. Il y a parmi nous bon nombre d'amis africains. Et je pense à cette tribu, la tribu Kiga, en Afrique de l'Est, qui donne à Dieu le nom de Biheko. Et Biheko signifie un Dieu qui porte tout sur ses épaules ou sur son dos. Il se trouve que dans cette tribu, seules les femmes ou les sœurs aînées portent les enfants sur le dos. Les pères ne le font jamais. Et pour représenter le Dieu que nous connaissons, le seul vrai Dieu manifesté en Christ, pour représenter Biheko, un de leurs artistes a sculpté dans le bois un homme qui porte sur le dos un enfant au visage d'adulte et dans ses bras un enfant plus faible. Double symbole. Symbole d'un père, de Dieu qui prend soin des humains, à la fois avec la tendre sollicitude d'une mère qui considère la fragilité du petit enfant qu'elle serre contre son sein, et en même temps la robustesse, la capacité de support, de porte, portée, qui donne sécurité, du Père qui porte l'enfant au visage d'adulte, mais sur le dos, sur les épaules. Quelle image absolument remarquable de notre Dieu, fidèle à sa vocation de Père en y intégrant cette dimension maternelle, de Père toujours présent. Et en me préparant ce matin, en repensant à la beauté de la personne de Dieu, à notre plaisir de l'aimer et de le servir, je pensais à quelques témoignages, je pensais à ce frère en Christ que nous allons retrouver en présence du Seigneur dans le ciel, cet Iranien, Mehdi Dibadj, qui avait passé près de 9 ans dans une prison d'Iran quand il fut finalement libéré en 1994, avant d'être assassiné finalement 6 mois plus tard, à cause de sa foi. Et voilà ce que ce cher frère Mehdi Dibadj a dit, notamment devant le tribunal qui lui demandait de justifier ses attitudes. Je ne craindrai pas d'avoir le monde entier contre moi, pourvu que je sache que le Dieu Tout-Puissant est avec moi et que j'ai l'approbation du Dieu de gloire. Mes accusateurs me disent de revenir, mais à qui puis-je revenir en quittant les bras de mon Dieu? Est-il juste d'accepter ce que le monde m'offre au lieu d'obéir à Dieu? J'ai marché avec le Dieu des miracles pendant 45 ans. Sa bonté envers moi est comme une ombre qui me protège. Je lui dois tout. Je remercie mon Dieu qui m'a jugé digne d'être ici en prison depuis plus de 8 ans à cause de ma foi. Je remercie mes frères et mes sœurs chrétiens qui m'ont soutenu par leurs prières afin que la victoire appartienne au Seigneur. Plus la nuit est noire, plus l'aube est proche. Plus les nuages sont sombres, plus les pluies qui donnent la vie sont abondantes. Plus le chemin est étroit, plus le secours de Dieu est sans limite. Bien que les vagues de la mer soient de plus en plus hautes, cela ne peut troubler le calme des profondeurs. Bien que la tempête soit violente, elle ne peut déplacer les montagnes. Celui qui vit à l'ombre du Tout-Puissant ne sera pas ébranlé. Et je relisais, je crois avant-hier encore, un extrait de prédication, de message adressé par Menno Simon. Menno Simon est un prêtre qui, au XVIe siècle, dans la première partie du XVIe siècle, s'est tourné vers Jésus-Christ en Hollande et qui a énormément travaillé ensuite pendant 25 ans en Allemagne du Nord et en Hollande pour soutenir ceux qu'on appelait les anabaptistes, c'est-à-dire ceux qui, par fidélité à la parole de Dieu, étant passés dans la tradition protestante ou catholique par le baptême d'enfants, étaient rebaptisés anabaptistes, simplement parce qu'ils considéraient à juste titre, à juste raison, que leur baptême d'enfants n'avait absolument aucune valeur au regard de Dieu, puisque ce n'était pas un engagement personnel, notamment, et qu'ils n'étaient pas convertis étant tout petits. Et Menno Simon a eu fort à faire pendant ces 25 ans, parce que des milliers d'anabaptistes, de croyants que nous appellerions aujourd'hui évangéliques, ont payé de leur vie, ont été exécutés à cette époque. On compte au moins 4000 anabaptistes exécutés à cause de leur foi en Christ. Et Menno Simon, donc, qui est à l'origine de ce qu'on appelle les Mennonites, va les encourageant en leur disant par exemple ceci: le Seigneur restera fidèlement à côté de vous dans toutes vos peines, selon tous vos besoins. Il étendra sa main sur vous, il vous gardera, il vous soutiendra, que ce soit dans la vie ou dans la mort. Le Seigneur est votre force, votre réconfort, votre refuge. Il est avec vous dans les prisons. Il va avec vous jusqu'en terre étrangère. Il vous accompagne à travers le feu et l'eau. Il ne vous quittera jamais, jamais il ne vous abandonnera. Dieu essuiera toutes larmes de vos yeux, la mort, la tristesse, les pleurs n'existeront plus. Et puis beaucoup plus près de nous, un dernier exemple. Je pense à Corrie ten Boom, cette femme de Dieu donc arrêtée avec toute sa famille par la Gestapo, en Hollande aussi pour avoir caché des juifs, famille engagée vraiment de tout son cœur pour le Seigneur. Et le jour où le camion est arrivé là, à l'entrée de ce magasin d'horlogerie qui était celui de sa famille et de son père, lorsque les agents de la Gestapo ont fait monter toute la famille dans le camion qui les conduisait vers la détention, vers les camps, un des responsables nazis d'interroger « Vous êtes six ?» Et le vieux père, avec cette longue barbe, un visage paisible, de dire « Non, nous sommes sept, car Dieu est avec nous. Nous sommes sept, car Dieu est avec nous. » Alors je brûlais ce matin de commencer par là, de mettre comme toile de fond à ce thème, la présence avant les sous. Je brûlais de mettre en avant de ce thème, comme toile de fond de ce thème, la présence de Dieu. Un Dieu merveilleusement présent. Et cela devrait être notre exemple à nous, parents, de mettre notre point d'honneur comme Dieu à être autant que faire se peut. Nous sommes vulnérables, nous sommes fragiles, nous vivons effectivement des circonstances qui font que, c'est vrai, nous mourrons, Dieu ne meurt pas. Nous pouvons connaître des situations de maladie qui nous éloignent pendant des mois, voire des années, de ceux que nous aimons. C'est vrai, nous l'avons dit aussi hier, l'abandon par le conjoint, un veuvage prématuré et tant d'autres situations peuvent légitimer une sorte d'éloignement temporaire en essayant de le réduire au minimum par rapport à nos enfants. Mais notre principe, notre règle générale en tant que parents, c'est de rechercher, en plus de l'exemple, sur la base de l'exemple, d'être autant que possible, de faire tous nos efforts pour être véritablement des parents présents, puisque nous l'avons souligné aussi, c'est à la famille, c'est aux parents et non à l'État, ni même à l'Église, ni à la rue, ni à nos voisins, que revient l'éducation de nos enfants. Nous pouvons déléguer une partie de l'autorité que Dieu nous a confiée en tant que parents à l'Église pour une part d'instruction. Nous pouvons déléguer une partie de notre autorité à l'enseignement scolaire. Mais l'autorité dernière nous a été confiée par le Seigneur. C'est moi qui suis responsable de l'éducation de nos enfants. Et c'est à moi qu'il revient en permanence de contrôler si ce que nos enfants reçoivent, tant qu'ils ne sont pas adultes, au niveau de l'enseignement, au niveau de l'influence, si cela est valable ou non au regard de Dieu. Nous avons évoqué la souffrance liée à l'absence d'un des deux parents ou à sa présence absente, nous y reviendrons. Souffrance inévitable liée au décès, orphelin avec tout ce que ça peut signifier, mais toutes les souffrances liées à l'éloignement d'une société sans Dieu. Tout ce que nous voyons autour de nous, ce chaos que nous avons essayé hier soir de concrétiser par un certain nombre d'enquêtes, de citations, de remarques et j'ai mis un point d'honneur à ne pas simplement donner la parole à des autorités évangéliques, à des hommes et des femmes de Dieu, mais aussi à donner la parole à des hommes et des femmes qui, sans connaître Jésus-Christ, se rendent compte que nous sommes complètement à côté dans notre société de ce que Dieu veut en réalité pour nos enfants concernant la famille, le couple et l'éducation. Nous avons évoqué le résultat des séparations, des divorces, des couples ou de l'éducation monoparentale, l'éducation maintenant par le couple entre guillemets d'homosexuels, etc. Et puis alors nous en sommes venus à aborder le problème des deux parents qui travaillent. Et j'aimerais quelque peu rappeler que nous sommes en train, dans l'Église de Jésus-Christ, de nous laisser entraîner sur des voies extrêmement dangereuses dans ce domaine. Et qu'il importe, si nous sommes véritablement disciples de Jésus-Christ, qu'avant qu'une épouse, notamment, et mère de famille, s'engage sur la voie de la vie professionnelle en dehors du foyer, qu'elle soit vraiment certaine devant le Seigneur que c'est bien Dieu qui le lui demande, que cela correspond bien à sa volonté. Quelles sont mes motivations lorsque je prends de telles décisions? Parce que nous nous sommes rendus compte des dégâts que cela provoquait, des dégâts que cela provoquait de plus en plus dans l'Église, dans les familles chrétiennes, parce que nos enfants, disons-le, sont de plus en plus mal élevés, aussi dans l'Église de Jésus-Christ. Et c'est une des raisons. Ensuite, nous avons évoqué l'importance, dans un premier temps, de la présence de maman. Justement, faire tout pour que maman soit à la maison auprès des enfants. Parce qu'elle a un rôle déterminant. D'autant plus durant les toutes premières années de la vie de l'enfant. J'ai ici sous les yeux deux remarques très intéressantes concernant l'univers secret de bébé. Veut-on savoir si un nouveau-né de 2 jours est capable de reconnaître sa mère à son odeur? 2 jours. Il suffit de placer de part et d'autre du visage de l'enfant 2 tampons. Le premier imprégné de lait maternel, le second du lait d'une autre femme. On constate alors que le bébé tourne systématiquement sa tête vers le premier, et ce même si l'on intervertit les tampons. En fait, non seulement le nouveau-né reconnaît l'odeur de sa mère, mais il la préfère à toute autre odeur. Deuxième exemple, de même, si l'on branche le dispositif électronique sur 2 lecteurs de cassettes, l'un diffusant la voix de sa mère, l'autre celle d'une femme prononçant les mêmes mots, le bébé têtera de manière à entendre le plus longtemps possible la voix de sa mère. Mes amis, que de mamans, y compris de mamans au sein du peuple de Dieu aujourd'hui, se privent de certains des moments les plus émouvants de la vie de leur enfant. Je veux parler du moment du premier sourire. Moi, je me souviens de notre bonheur éperdu lorsque nous nous sommes penchés sur le berceau de notre aîné et que nous avons vu son premier franc sourire. C'était à pleurer de bonheur. Nous nous souvenons, mon épouse et moi, des tout premiers pas de nos enfants. Et c'est quelque chose de si beau. On perd énormément de grands moments qui tissent d'autant plus des liens extrêmement profonds entre nos enfants et nous, lorsqu'on pense que d'autres peuvent s'occuper à notre place facilement de nos enfants sans que cela fasse de différence. Nous avons évoqué hier soir la dimension affective tellement importante, nous l'avons lu dans Tite 2, versets 3 à 5. Il est intéressant de constater, n'est-ce pas, qu'il est dit aux jeunes femmes qu'elles ont besoin d'apprendre à être amoureuses de leur mari. Eh oui, ça s'apprend. Il est vrai que les jeunes femmes, comme le dit l'Écriture, ont besoin d'apprendre à développer une véritable affection pour leurs enfants. Le texte le dit, ça s'apprend. Et il y aurait ici beaucoup de choses à dire concernant le rôle des grands-parents, n'est-ce pas, dans la vie des parents et de leurs enfants, des petits-enfants. Mais nous ne voulons pas maintenant entrer dans ce domaine. La maman est le cœur du foyer, le feu qui brûle dans l'âtre. Nous avons évoqué sa sensibilité, son intuitivité, son émotivité, son don de tendresse, de chaleur, de sympathie. Nous avons évoqué par l'exemple pris tout à l'heure concernant l'écoute du tout petit bébé, n'est-ce pas ? L'écoute de la voix de la maman. L'importance du langage dès le début de la vie. Heureuses les mamans qui savent beaucoup parler à leurs tout-petits. Heureux les bébés qui entendent souvent, beaucoup, la voix de leur maman. Il y aurait beaucoup de choses à dire ici sur l'importance simplement du langage dès le début de la vie. Dans un livre consacré à ce qu'il appelle le traité des caresses, un médecin écrit ceci: dans les orphelinats américains jusqu'en 1900, 90% des enfants mouraient avant l'âge d'un an, après un lent dépérissement. Pourtant, leur alimentation et leur hygiène étaient irréprochables. Des médecins préconisèrent au personnel de les materner comme leurs propres enfants, et là même déjà, la mortalité tomba à 10%. Un savant a écrit un long livre sur l'art du toucher. Il démontre que la peau, autrefois considérée comme guère plus qu'un simple revêtement du corps, était en fait l'organe sensoriel, est en fait l'organe sensoriel partant de la peau pour aller au cerveau et passant, oui, j'ai un petit problème dans le texte qui est imprimé, mais de mauvaise manière, enfin, plus de 500 000 nerfs sensoriels partent de la peau pour aller au cerveau en passant par le cordon médulaire. L'organe sensoriel est l'organe le plus important du corps humain. Un être humain peut survivre à la cécité, à la surdité, à la perte du goût et de l'odorat, mais si la peau ne remplit plus sa fonction, il ne peut vivre. On pensait autrefois que les animaux léchaient leurs petits tout simplement pour les laver. Mais comme l'a démontré ce savant, la toilette des petits a une fonction beaucoup plus importante. Une stimulation correcte et régulière de la peau est essentielle au bon développement organique et social. Et ce savant revient sur la même pensée déjà évoquée par l'auteur de ce livre en soulignant qu'au XIXe siècle, plus de la moitié des enfants mouraient au cours de leur première année d'une maladie appelée marasme. Ce mot d'origine grecque signifie dépérir, maigrir, et selon lui, le taux de mortalité infantile atteignait 100% dans certains orphelinats américains, et ce jusque dans les années 20. Un célèbre pédiatre de New York nota que les enfants étaient gardés dans des salles stériles, désinfectées, bien rangées, mais qu'ils n'étaient presque jamais pris dans les bras par les infirmières. Ce pédiatre engagea donc des femmes dont le seul travail consistait à tenir les bébés dans leurs bras, à leur parler tendrement, à les caresser, et le taux de mortalité baissa d'un seul coup. Le coupable était un dénommé Hemet Holt, père, professeur de pédiatrie à l'Université de Columbia. Cet homme recommandait aux mères de supprimer le berceau et de ne pas prendre le bébé dans leurs bras lorsqu'il pleure de peur de le gâter. La tendresse et la douceur étaient considérées à l'époque comme contraires à la science. Alors bien évidemment, quand on entend ce que je viens de lire en dernier, n'est-ce pas, ne pas prendre le bébé dans leurs bras lorsqu'il pleure de peur de le gâter, nous sommes passés aux extrêmes, n'est-ce pas? Il y a ceux qui ne prennent jamais leur bébé dans leurs bras, ou trop peu, parce qu'ils le confient à tout le monde, et puis il y a ceux qui le prennent trop, c'est-à-dire que dès que bébé pleure, on se précipite. Finalement, l'enfant, de cette manière, s'est aussi mené ses parents très tôt dans la vie par les sentiments. Déjà, au XIIIe siècle, pour une raison étrange, l'empereur Frédéric, le chef du Saint-Empire romain, voulait découvrir quelle était la langue première de l'homme. Il se disait que si des enfants n'entendaient jamais une parole, ils parleraient la langue qui leur était naturelle. Et il s'arrangea donc pour avoir quelques nouveau-nés. Les infirmières qui devaient en prendre soin devaient observer en leur présence un silence absolu. C'était extrêmement difficile, mais ces infirmières obéirent quand même. Quelques mois plus tard, tous les bébés étaient morts. Importance du langage, importance du geste, de la tendresse, et faut-il le dire, l'amour et la tendresse des parents entre eux est une source de stabilité émotionnelle pour l'enfant. Quelqu'un écrit qu'un enfant qui grandit avec la connaissance que ses parents s'aiment toujours possède une base merveilleuse de stabilité émotionnelle d'enfant. Et là, on rejoint, une fois de plus, ce que nous avons lu dans Tite au chapitre 2. Être amoureux de son mari, être amoureux de ses enfants. En conclusion à ce que nous avons dit déjà hier soir et que nous amplifions dans cette étude sur le rôle de la maman. C'est vrai que le rôle de la maman apparaît souvent comme un rôle caché. C'est un rôle non spectaculaire. C'est présenté généralement comme un rôle ingrat. Mais comme bien des rôles non spectaculaires, comme bien des rôles cachés, comme bien des rôles ingrats, le rôle de la maman est un rôle absolument déterminant à long terme. Et cela, dans notre monde qui court si vite et qui brûle les étapes, nous, disciples de Jésus-Christ, nous l'avons trop souvent oublié et nous nous sommes installés si souvent dans le court terme, visant à nos avantages, à nos libertés, à notre confort, à notre niveau de vie, et que sais-je encore, sans réaliser que, mes amis, on récolte tôt ou tard ce que l'on a semé lorsqu'on n'a pas vu plus loin que le bout de son nez. Je me souviens que lorsque nous avions traité de l'harmonie conjugale et évoqué le profil de la femme, j'avais cité André Mauroy. Je le recite. Une femme qui gouverne bien sa maison y est à la fois reine et sujette. Elle est, pour son mari et pour ses enfants, celle qui rend le travail possible. Elle les préserve des soucis, elle les nourrit, elle les soigne. Elle est ministre des finances. C'est grâce à elle que la maison ou l'appartement ont quelque charme. Elle est ministre de l'éducation familiale. Et c'est grâce à elle que les garçons entrent en polytechnique et que les filles sont cultivées. Une femme doit être aussi fière de réussir à faire de son ménage un petit monde parfait que le plus grand homme d'État d'avoir organisé son pays. Et lui, André Mauroy, était un homme de trempe nationale. Il y en a trop peu aujourd'hui qui auraient le courage de dire de telles paroles. Je pense à un des grands théologiens britanniques, évangéliques, le docteur Campbell Morgan, qui avait 4 fils. Tous les 4 devinrent pasteurs, et lors d'une réunion de famille, un ami posa la question suivante à l'un des fils. « Qui d'entre vous est le meilleur prédicateur ?» Et le fils de regarder son père et de dire promptement « Notre mère ». Ils étaient 5 prédicateurs, mais leur préférence allait aux prédications, en quelque sorte, de leur maman. Je pense à John Wesley, le fondateur de ce qu'on appelle le méthodisme, qui est loin, loin, loin aujourd'hui. Les églises méthodistes, même évangéliques, sont bien loin de ce qu'a été le méthodisme à l'époque de John Wesley, qui a vécu pendant presque la totalité du XVIIIe siècle. Et sa maman, Suzanne Wesley, était mère de 17 enfants. 11 ou 12 ont survécu. Et cette femme de Dieu passait 1 heure par jour à prier pour ses 17 enfants. Et de surcroît, chaque semaine, Suzanne Wesley prenait à part chacun de ses enfants pendant au moins 1 heure pour discuter des questions spirituelles. Et nous aurons l'occasion de revenir sur Suzanne Wesley. Il y a eu 2 hommes de Dieu qui ont marqué cette époque, 2 frères. John Wesley, dont Dieu s'est servi pour bouleverser jusque dans ses racines le peuple britannique, dans son entier, avant que le message de Dieu par la bouche de John Wesley aille au-delà des mers. Et son frère Charles, 2 hommes de Dieu. Mais voilà une femme de Dieu qui avait compris où étaient les priorités. Elle a d'ailleurs beaucoup de choses, d'autres choses à nous dire que nous aurons l'occasion de voir plus tard. Et je dis cela parce que John Wesley a un jour dit ceci en ce qui concerne le christianisme. J'en ai appris davantage de ma mère que de tous les théologiens d'Angleterre. J'en ai davantage appris de ma mère que de tous les théologiens d'Angleterre. Un jour, un prédicateur fut reçu par un professeur, sa femme et leurs 2 adolescents. Et voilà le témoignage qu'il rendit. Tout de suite, en entrant, je me suis rendu compte qu'il y avait une atmosphère dans cette maison. Ils formaient une bonne famille chrétienne. J'ai cependant remarqué que le tapis de la salle de séjour était troué et déchiré. Avant de repartir, la femme me raconta une histoire qui m'aida à comprendre l'état du tapis. Elle dit qu'un jour où elle voulut passer l'aspirateur, il y avait une 12 d'enfants chez elle. « Les gars, leur dit-elle, vous allez devoir aller jouer ailleurs car j'ai du travail à faire ce matin. »« Mais où pourrions-nous aller » dirent-ils. « Bien, pourquoi ne pas aller chez vous » suggéra-t-elle à l'un des garçons. « Oh, mais maman ne nous laissera jamais entrer. » Alors, elle se tourna vers un autre. « Et chez vous ?» Mais ce dernier répondit aussitôt, « Mais maman ne nous laissera pas entrer tous les 6 dans sa belle maison. » Après quelques autres questions, elle se rendit compte que sa demeure était le seul endroit où les enfants pouvaient entrer à loisir pour s'abuser. Maintenant, ils se rassemblaient toujours chez elle, et c'est pourquoi il faudrait bientôt acheter un nouveau tapis. Après avoir écouté son histoire, reprit ce prédicateur, je ne voyais plus du tout son tapis troué de la même manière. Il était devenu le plus beau tapis que j'avais jamais vu. car il avait été usé à former de bons garçons. Et le commentateur d'ajouter, nous aimons tous voir une maison propre et en ordre, mais pas aux dépens des valeurs humaines. Mère, si vous ne devez pas absolument aller travailler à l'extérieur, pensez-y deux fois avant de le faire. Votre première responsabilité, c'est de vous occuper des soins domestiques. Nous l'avons vu dans Tite chapitre 2. Grand-mère, apprenez à vos filles à devenir de vraies femmes d'intérieur. Et c'est vrai, qui ne le reconnaîtrait pas ? Une mère, une épouse, une femme n'aime pas tout ce qu'elle fait en matière de travail intérieur. Elle a aussi ses affinités. Mais croyez-vous que les pères, les maris et les hommes que nous sommes, nous aimons tout ce que nous faisons dans nos travaux à l'extérieur ? Dans toute profession, dans l'exercice de tout métier, comme dans toute vocation, et je parle de la mienne, nous sommes contraints de faire des choses que nous n'avons pas envie de faire. Et nous les faisons. Parce qu'elles sont nécessaires. Et nous demandons à Dieu la grâce de les accomplir pour lui. Pour le glorifier. Pour l'honorer. Et parce que cela est bon et juste. Pour le bien de ceux qui nous entourent. Alors, il vaut la peine que nous posions quelques questions. Et je sais qu'une fois de plus, je mets les pieds dans le plat et que je suis digne d'être amputé de ma tête pour oser proférer aujourd'hui de telles vérités. Mettre l'enfant très tôt à la crèche et à l'école maternelle. Savez-vous que notre manière française de mettre nos enfants si tôt à l'école maternelle, bientôt ils naîtront dans l'école au point où nous en sommes. Savez-vous que cette manière choque certains de nos proches voisins en tant que pays? Est-ce que vous trouvez normal? Est-ce que nous n'acceptons pas de voir vraiment, clairement, une activité de la puissance des ténèbres qui essaye de faire échapper l'enfant à la sphère d'affection, d'autorité, d'influence des parents, qui est tellement importante, notamment durant les toutes premières années de la vie. Nous aurons l'occasion d'en parler en introduisant la pratique de l'éducation des enfants. Nous verrons ce que pratiquement tous les spécialistes et la Bible d'abord soulignent lorsqu'il est question de parler des toutes premières années de la vie. Combien ces années sont importantes, combien d'éléments à venir de l'enfant se déterminent durant ses toutes premières années de la vie. Et c'est intéressant de le remarquer d'ailleurs avec l'âge. Moi je suis très frappé de voir, tout en marchant avec le Seigneur depuis maintenant largement plus de 40 ans, 45 ans, je suis frappé de voir combien mon enfance a laissé des marques indélébile. Je lis dans le miroir de mon enfance bien des dimensions de ma vie d'aujourd'hui. Je bénis Dieu pour l'œuvre profonde qu'il a fait et qu'il continue de faire. Mais je me rends compte en même temps combien mon enfance a été stratégique en marquant toute la suite de mon existence dans un certain nombre de domaines. Mettre l'enfant très tôt à la crèche, à l'école maternelle, est-ce la solution? Est-ce la meilleure solution pour le bien futur de l'enfant? Oh, je sais, nous sommes mal vus. Je peux vous le dire, parce que nous avons fait l'expérience. Nous avons nous avons mis notre point d'honneur à ne pas envoyer nos enfants très tôt à l'école maternelle. Nos enfants ont pratiquement fait tous une partie plus ou moins entière de leur dernière année d'école maternelle. Et mes amis, qu'est-ce que nous avons entendu? On nous a dit que nous aurions des enfants anormaux. On nous a dit que nous aurions des enfants qui ne seraient pas sociables, qui auraient des difficultés dans tel et tel domaine, qui seraient des sauvages. Mensonge. Bien sûr que si on garde ces enfants chez soi, comme on garde un lion en cage, si on les enferme dans un ghetto quand ils sont tout petits, si on n'a pas du tout de vie sociale, si nous vivons une sorte de surprotection, et nous aurons l'occasion de parler de possessivité, de surprotection. C'est vrai alors qu'il y a danger. Mais si on prend soin de manière à ce que nos enfants fréquentent l'entourage, qu'ils sortent aussi, n'est-ce pas? Combien la première éducation durant les premières années de la part des parents est importante. Nous bénissons Dieu d'avoir pu vraiment nous occuper pleinement de nos enfants pendant les 4 ou 5 premières années avant qu'ils entrent. Oui, on a parlé tout à l'heure de, je dirais presque de fosse au lion, n'est-ce pas? Quand nos enfants commencent à fréquenter l'école, que d'angoisse, notamment aujourd'hui. Alors équipons-les en leur donnant le maximum d'influence divine et d'influence d'une bonne éducation personnelle dans la mesure où nous en avons pleinement la possibilité. Que dire de cette facilité inquiétante avec laquelle des parents se délestent de leur progéniture pour, par exemple, les mettre à la cantine. À la cantine. C'est formidable. Nous allons vivre un moment de liberté. Pouvoir vivre entre midi et 2 heures sans le stress des enfants qui rentrent à la maison. Tant pis pour ce qu'ils mangent, tant pis pour la manière dont ils mangent, tant pis pour la manière dont ils sont entourés, tant pis, on pourrait continuer, n'est-ce pas, comme ça? Je veux bien croire, et je le redis par souci de ne pas mettre de fausses culpabilités, qu'il existe des situations où faire le contraire est quasi impossible, mais en sommes-nous sûrs? Est-ce qu'il ne vaut pas la peine? Et c'est là que, si la maman est au foyer, même si papa est au dehors, elle va pouvoir aller chercher l'enfant. Nous avons fait cela pour tous nos enfants jusqu'à la fin de la 3e. Et finalement, je suis persuadé que nos enfants ne le regrettent pas. Alors, le seul moment où nos enfants allaient à la cantine, c'était généralement pour les moments de fête, hein, quand il y avait les frites et les petits plats dans les grands, parce que c'était la fin de l'année scolaire ou juste avant Noël. Alors ils avaient double dose, ils avaient les fêtes à la maison et ils avaient la fête à l'école. Mais combien c'est important d'accueillir ces enfants à l'heure du repas de midi. Fini les cartables lourds, fini ces heures pendant lesquelles on fait des bêtises dans la cour, parce que, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on fait après le repas à la cantine? Que de drames ont commencé, mes amis, dans la cantine ou après la cantine avant la reprise de la classe. Et puis quand il y a des grèves, de ces heures qui n'en finissent pas, où l'enfant traîne. Et puis vous savez, l'enfant, il a besoin de vider son cœur. Nous avons passé du temps à écouter nos enfants, mon épouse en particulier, puisque j'ai beaucoup voyagé, n'est-ce pas? Mais mon épouse en particulier à écouter les enfants quand ils rentrent, après 3 ou 4 heures de cours le matin. Mais qu'est-ce qu'ils ont à raconter, au point qu'il faut faire la police? Toi tu parles d'abord, toi tu parles ensuite, toi tu tais, toi tu as quelque chose à dire, n'est-ce pas? Parce que chacun a besoin de vider son cœur, chacun a besoin de faire le point. On apprend un tas de choses. Et de cette manière, mes amis, on prévient des problèmes. Bien des problèmes sont traités à la base, avant qu'ils se développent en incendie dramatique, tout simplement parce qu'on a pu écouter les enfants. Et que les enfants nous ont rendus attentifs sans s'en rendre compte à un problème qui est en train de démarrer dans leur vie, ou peut-être dans la cour de l'école, ou peut-être dans la relation avec les camarades en classe, ou peut-être dans la relation avec l'enseignant. Alors est-ce que nous sommes parents responsables lorsque nous profitons si facilement des facilités aujourd'hui qui sont offertes au plan scolaire, alors que trop souvent, c'est au détriment de nos enfants pour leur équilibre présent et aussi pour leur équilibre à venir. D'ailleurs, entre nous soit dit, et cela se passe quand même il y a pas mal d'années, quand j'étais au collège, notre collège était à 5 bons kilomètres de la maison. Il y avait d'ailleurs une magnifique côte à monter, mais puisqu'il fallait monter la côte, ça voulait dire qu'on allait la redescendre aussi, c'était encourageant. Mais vous savez, chez nous, je faisais 5 km le matin, 5 km à midi, 5 km à 1h30 et 5 km le soir. C'était 20 à 25 km en vélo tous les jours, hiver comme été, et à la frontière du Luxembourg, l'hiver, c'était pas les Antilles, hein. C'était même pas l'Orléanais, parce que l'hiver dans le temps, c'était autre chose que l'hiver maintenant. On n'avait pas le choix. Eh bien, voyez-vous, vous avez devant vous un serviteur traumatisé. Le pauvre. Le pauvre. Je bénis Dieu pour tous les souvenirs que je garde de nos voyages à bicyclette. Des belles bûches, comme on disait chez nous, que j'ai pris parfois lorsqu'un vêtement s'est pris dans les rayons du vélo, et tout le reste. Le temps passe. Écoutez, je crois même que je vais m'arrêter là. J'aimerais simplement vous lire un dernier texte qui est très important. Une question. Nous avons vu certaines questions hier soir. Elles sont adressées à un médecin, mais homme de Dieu, qui a le souci de fidélité à la parole de Dieu, dont j'apprécie beaucoup les ouvrages. Vous en trouverez quelques-uns. Il s'agit de James Dobson. On lui pose la question suivante. Vous avez pris ouvertement position pour la nécessité de la présence de la mère au foyer quand les enfants sont petits. Que pensez-vous des mères d'élèves du primaire et du secondaire qui travaillent à l'extérieur? Donc du primaire et du secondaire. Réponse. Si vous m'aviez posé cette question il y a 5 ans, j'aurais répondu que la présence des mères à la maison est surtout importante pendant les années préscolaires. Après la maternelle, l'élément important est d'être là quand l'enfant rentre de l'école. Voilà ce que j'aurais répondu quand nos enfants avaient 5 ans. Aujourd'hui, notre fille Danae a 16 ans, Ryan en a 11. Je ressens encore plus fortement le besoin de la présence de leur mère à la maison pendant leur adolescence. Je sais que ce point de vue ne risque pas d'être populaire. Merci James, je me sens dans la même peau. C'est moi qui ai ajouté. Mais je me dois de répondre honnêtement selon ce que je ressens et ce que j'observe. Les activités prodigieuses des adolescents engendrent de grandes tensions au sein des familles et exige toute l'attention des adultes. Qui va se charger de conduire et de ramener les enfants à la maison, de préparer la venue des camarades à la maison, de coudre la nouvelle robe, d'assister au premier match officiel du garçon, de se maintenir au courant de tous les événements importants propres à cette période unique de la vie? Non seulement maman est la seule qui puisse maintenir tout cela en place à la maison pendant cette époque de haute tension, mais elle doit aussi s'armer de courage pour affronter les inévitables conflits qui apparaissent toujours dans de semblables circonstances. Ce n'est certes pas le meilleur moment pour elle d'arriver épuisée à la maison après une rude journée de travail qui a déjà exigé sa consécration totale. Et c'est malheureusement ainsi que l'on prépare la scène pour les explosions émotionnelles qui vont sévir entre les générations. Et là, J'applaudis à pleine main. James Dobson. Parce que, encore une fois, nous sommes parents de 4 enfants qui ont donc de 20 à 28 ans. Et si nous avions à recommencer, en tout cas dans ce domaine, nous recommencerions de cette manière, à savoir le maximum de disponibilité, notamment de la part de la maman. En tout cas jusqu'à la fin de l'adolescence. Et moi-même, j'ai dû changer de position parce qu'il fut un temps où j'enseignais par inexpérience et peut-être par orgueil, refusant d'admettre le témoignage des autres, que la présence des parents était absolument indispensable, fondamentale, le rôle de la maman, nous verrons le rôle du père, en particulier pendant les premières années de vie. Mais je dois dire que maintenant, j'ai envie de hurler l'importance de la présence de la maman pendant l'adolescence et le rôle, nous le dirons cet après-midi, important du père. Parce qu'alors, que d'entretien, que de temps de partage, que de discussion, que de mise au point, que de nécessité d'information pour accompagner ces turbulences de la vie de l'adolescent. Et c'est vrai que c'est une période difficile, c'est une période de réajustement, c'est une période de confrontation. Nous aurons l'occasion, dans ce thème de l'éducation des enfants, d'évoquer les relations parents-enfants dans l'adolescence. C'est difficile, c'est exigeant. Et on peut aussi, là, avoir envie de fuir ces situations difficiles. Ces situations, il faut reprendre absolument toutes les mesures, parce que la qualité, le type de rapport change entre les parents et les enfants à cet âge. Et il y a des tâtonnements inévitables, il y a des demandes de pardon combien de fois ? Emmanuel pourrait vous le dire, j'ai dû demander pardon à Emmanuel, ou Emmanuel a dû me demander pardon, et il en fut ainsi de ses sœurs. Mais combien leur maman a eu une fonction importante pendant l'adolescence de chacun de nos enfants. Que d'heures leur maman a passé le soir, en particulier dans leur chambre, pour un dernier moment d'entretien. Et combien j'étais heureux, combien j'étais reconnaissant, combien j'étais moi-même sécurisé, en tant que papa parfois à 5000 kilomètres ou plus, de savoir que pendant ce temps-là, leur maman n'était pas harassée par le travail d'une journée à l'extérieur, avec toutes les exigences, toutes les pressions de la société moderne, toute l'agressivité, n'est-ce pas ? Et qu'elle pouvait encore être disponible à l'écoute, partager, sécher des larmes, apaiser des colères, des indignations, des rancœurs, régler des problèmes entre les enfants, n'est-ce pas ? Parce que quand ils sont pris, ils se chamaillent beaucoup. Après, quand ils sont loin les uns des autres, c'est fou ce qu'ils s'aiment follement. Hein ? Vous comprenez ? Alors là encore, ne pensez pas pouvoir faire l'économie de la présence parce que, apparemment, vos enfants adolescents, dans certains domaines, sont plus autonomes. Ils ont peut-être plus encore besoin de votre présence que tout petit, dans ce sens que les besoins deviennent très importants dans le domaine du dialogue, dans le domaine du partage. Parce qu'il y a une fragilité affective très très forte dans la recherche de son identité, dans la manière de se situer par rapport au monde, à la société, à l'école, aux camarades, à la vie professionnelle. Et là, nos enfants ont un besoin énorme de notre présence, même lorsqu'ils sont désagréables, parce que nous sommes aussi, nous, hélas, en tant que parents, capables d'être désagréables avec eux. Voilà, nous voulons nous arrêter là pour cette étude. Et après avoir donc donné honneur aux mamans, puisque c'est la fête des pères, et qu'après tout, Ce n'est pas parce que nous sommes disciples de Jésus-Christ que nous devons, pardon de le dire comme ça, cracher dessus. Et je crois que nous devons en renier tout le caractère de productivité, de rentabilité économique, de marché commercial. Mais ça, c'est une chose. Moi, je suis reconnaissant de ce que nos enfants, à un moment donné de l'année, d'une manière toute particulière, se souviennent qu'ils ont un papa et qu'ils ont une maman. Je m'en réjouis, et pour moi, aujourd'hui, c'est une journée de fête. Je ne vous le cache pas. Donc cet après-midi, nous n'allons pas contourner les pères, nous allons parler de la place ô combien importante de papa dans le foyer pour l'éducation. Nous voulons simplement prier. Merci Seigneur, parce que tout d'abord, ce matin, tu as voulu élever nos cœurs vers toi. Tu nous as invités toi-même, merci de l'avoir mis dans mon cœur. Tu nous as invités toi-même à regarder vers toi, le Dieu éternellement présent. Merci parce que tu n'es pas un lâcheur. Merci parce que tu es, toi, partout à la fois, présent auprès de chacun. Tu fais même lever ton soleil sur les bons et sur les méchants. Merci pour ta présence en tant que Dieu créateur. Et si ceux qui ne te connaissent pas encore en Jésus-Christ pouvaient savoir combien déjà, en tant que créateur, tu t'occupes d'eux, combien tu essayes de les attirer à ton Fils Jésus-Christ. Et puis merci pour tes tendres soins, pour ta sollicitude, pour le fait que tu n'abandonnes jamais les tiens. Merci pour ton cœur de père. Et à l'intérieur de ton cœur de père, pour ta sollicitude, ta tendresse maternelle. Je t'aime, je te chéris avec tendresse. Voilà ce qu'avec David nous voulons te dire. Ô Dieu, mon rocher, mon bouclier, ma force, ma tour forte. Seigneur, merci, tu es ma forteresse. En toi, je trouve ma sécurité. Sois loué, Dieu Tout-Puissant, mais en même temps, Dieu de tendresse. Merci pour ton affection. Merci pour la manière dont tu m'entoures de ton amour, de cet amour inconditionnel. Je te bénis parce que tu n'as jamais failli à ton rôle, à ta fonction éminente de père dans ma vie, alors que si souvent je me suis mal conduit en tant qu'enfant. Merci pour ta patience à mon égard. Merci pour ton pardon. Merci pour le sourire du Seigneur Jésus. Seigneur, visite-nous les uns et les autres dans notre besoin par rapport à ce que nous avons partagé. Ô Seigneur, mets sur nos cœurs et au-delà de cette salle, sur le cœur de tous ceux qui nous entourent, le profond désir d'être présent. Non pas des présents absents, mais des présents concrètement présents dans la vie et l'éducation de leurs enfants. Et merci de savoir que lorsque papa est parti ou lorsqu'il est décédé prématurément, merci de savoir que tu as des grâces toutes particulières pour les besoins de ceux qui sont privés de l'un ou de l'autre de leurs parents. Merci aussi pour ces parents de remplacement que tu es capable de donner. Merci pour parfois ces bons grands-parents aussi. Merci pour ces bien-aimés dans l'Église. Ô Seigneur, tu mets tant de possibilités à notre disponibilité pour que nous puissions être présents d'une manière ou d'une autre auprès de nos enfants. Et puis en terminant, Seigneur, nous voulons te demander de bénir tous les enfants qui sont représentés dans cette communauté, qu'ils soient présents au moment où nous les entendons dehors, qu'il soit absent. Seigneur, bénis chacun de nos enfants et vraiment mets-nous à cœur de tout faire de notre côté pour qu'ils aient le maximum de possibilités de vivre ensuite, dans ce monde si difficile, une vie d'adulte qui te glorifie, dans laquelle ils auront envie de devenir à leur tour de bons pères, de bonnes mères, de bons époux, de bonnes épouses. Merci pour ta grâce parfaitement suffisante pour nous aider. Merci pour ton pardon. Merci pour la restauration. Nous te louons pour tout cela, de tout notre cœur, en Jésus-Christ. Amen.